Là, on la lance.
D'accord.
Sans briser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse.
Amen.
Oui, c'est ça.
Samedi, c'était Notre-Dame de
Lorette.
Et vendredi, ça devait être une autre Notre-Dame.
Oui, vous la connaissez un petit peu quand même.
Pardon, je suis un peu perdu là.
Oui, oui. Et l'Immaculée, ben bien sûr, l'Immaculée Conception. Donc, jeudi, l'Immaculée Conception. Alors, mercredi, c'était Notre-Dame de quoi? Voilà. Oui, c'est quand même, franchement.
Est-ce que c'est
Sainte
aujourd'hui ou pas?
Sainte Jeanne de Chantal?
Demain.
Ah, c'est demain. Voilà, là, une spécialiste des saints. Voilà, alors là, nous allons suivre l'exemple de saint Abraham, qui du reste, il y a pas mal de liens entre Abraham et la Vierge Marie. Hein, c'est des liens très très forts. Pour comprendre la Vierge Marie, il faut connaître Abraham. On peut faire déjà ce rapprochement. Voilà, je commence en vous demandant si depuis la dernière fois il y a des questions, il y a des frustrations, il y a des points sur lesquels vous souhaitiez revenir. Je vous rappelle que il faut s'exercer à venir avec nos questions parce qu'on se rend compte qu'à la fin d'une séance, on a la tête en général pleine comme une citrouille et qu'il faut laisser décanter les choses et c'est après qu'on a les questions. Voilà, alors peut-être qu'il n'y a pas de questions du tout. S'il y en a... Oui ?
C'est un peu délicat. Pourquoi la circoncision ?
Alors, pourquoi la circoncision ? Alors, on en a parlé la dernière fois. C'est parce que c'est un ordre que Dieu a donné à Abraham pour marquer l'appartenance au peuple de l'Alliance. Et avec le thème qui est donné dans la Bible, parce qu'en réalité, il y a toutes sortes de raisons historiques, parce qu'on le voit dans plusieurs cultures. En Égypte, par exemple, dans la religion égyptienne, on a une image qui est assez connue où c'était pratiqué dans des peuples en Afrique, etc. Donc la Bible donne une signification religieuse qui est de dire « mon alliance sera gravée dans la chair ». Voilà. Et alors, il y a cette idée que développe pas mal la spiritualité, la mystique juive, que je trouve assez belle, que d'ailleurs, qu'on voit évoquer très rapidement dans la bouche de Delphine Horviller, qui est une rabbin, voilà, libérale, dans le film de Gad Elmaleh, que j'ai trouvé très très beau, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, et elle dit en effet, le propre du judaïsme, c'est d'assumer une espèce d'inachèvement dans toute chose, parce qu'on sait que la perfection est en Dieu, par opposition au monde grec, où on a l'idée d'une perfection esthétique, intellectuelle, quand on construit, quand on... voilà, la perfection, le fait de faire du début à la fin quelque chose, ça, c'est la mentalité davantage grecque. Pour le judaïsme, il y a toujours quelque chose d'inachevé. On le voit dans l'art, hein, dans l'art juif. Par exemple, quand les juifs portent un voile de prière, il y a le châle de prière avec les tzitzit, ça veut dire les franges. On ne fait pas d'ourlet. On fait pas d'ourlet. On laisse les franges parce que c'est au ciel qu'on fera les ourlets, que tout sera terminé. Et donc, c'est pareil, la question de la circoncision, c'est-à-dire, il y a en l'homme quelque chose, eh bien, quelque chose en moins, quelque chose qui fait que l'homme n'est pas complet, il sera complet quand il sera au ciel. Voilà, il y a vraiment cette idée. Et puis, le thème de « mon alliance sera gravée dans ta chair », au lieu de la transmission de la vie, c'est-à-dire que ça concerne la transmission de la vie. Et j'aime bien aussi cette interprétation que donne Origène, un père de l'Église, voilà, un lecteur des Écritures, et qui disait l'alliance dans la chair, alors là c'est sûr que c'est physique, mais il dit en réalité l'alliance dans la chair, ça veut dire les commandements de Dieu, on les met vraiment en pratique. Hein, c'est une manière de parler. Hein, quand dans le livre de la Genèse, il a dit « tu pratiqueras la circoncision pour que mon alliance soit dans ta chair », c'est aussi pour dire que mon alliance, ben, tu la mets concrètement en pratique. Voilà. Donc c'est vraiment, la raison centrale donnée par la Bible, c'est ça, c'est que l'alliance avec Dieu soit marquée dans la chair, mais les significations spirituelles sont assez nombreuses. Voilà. Ça va, oui ?
Qu'est-ce qu'un roi païen ? Païen, qu'est-ce que ça veut dire, païen ?
Ben, païen dans le langage biblique, dans le langage biblique, c'est pas tout à fait notre langage. Pour nous, un païen, c'est franchement quelqu'un qui est un peu nul, qui se comporte mal, ou un peu débauché, ou tout ce qu'on veut, ou un croyant. En fait, les païens, c'est un peu le contraire. Enfin, même les historiens, je pense, diront la même chose. Un païen, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Toute l'humanité croit en Dieu. On croit en des dieux, hein, des divinités. Les païens, c'est toute l'humanité, sauf Israël. Les païens, c'est ce qui se distingue d'Israël. Il y a le peuple appelé par Dieu, le peuple élu. Alors eux, ils ont un seul Dieu. Alors on le voit avec Abraham. Hein, il y a une alliance avec Dieu. Et tous ceux qui n'appartiennent pas à l'alliance d'Israël, eh bien, ce sont des païens. En hébreu, c'est les goy, les nations. En fait, c'est la même chose que les nations. Païen, ça vient du latin paganus, des latinistes parmi nous. Voilà, pagani, hein, les gens du pays. Ça a donné le pays, c'est la même chose. P-A-Y-S, le pays. Hein, les païens, les gens du pays, les gens du territoire. Voilà. Donc, en fait, c'est un terme très indéterminé. Hein, dans la Bible, c'est l'humanité sans le Dieu d'Israël. Ça donne quoi? Ça donne toutes sortes de religions, plus ou moins intelligentes, plus ou moins belles. Il y en a qui sont très intelligentes. Hein, en Égypte, par exemple, on a tout un système religieux très élaboré, en Grèce, etc. Et puis d'autres qui sont un peu plus primitifs, un peu plus lourds. Voilà, c'est l'humanité livrée à elle-même. D'un point de vue théologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'humanité livrée à elle-même.
D'accord.
Voilà. C'est bon? Oui? Les gentils, c'est pareil. Gentibus, en latin. Ça a donné les gens, par exemple. Quand on dit les gens, ça veut dire... voilà. Dans la bouche de Laotian, là, dans le Nouveau Testament, on parle des gentils. Hein, c'est le même sens que les païens.
Le parvis des gentils.
Le parvis des gentils, vous voyez. C'est vrai que pas que... Alors, pour nous, c'est les gentils, ça veut dire les gens qui se tiennent bien, qui sont polis, qui sont gentils. Il est bien gentil. Voilà. Mais les gentibus.
Et dans la Bible, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Mais c'est la même chose que païen. C'est la même signification théologique. C'est la même signification théologique. Les deux grandes catégories, c'est saint Paul qui va les théoriser et qui va construire toute sa théologie dessus. Il y a d'un côté le peuple de l'Alliance, depuis Abraham, voilà. Et puis, il y a le peuple qui n'est pas dans l'Alliance. Ce sont toutes les nations, les Africains, les Chinois, les Gaulois, les Latins, les Grecs, les Arabes, etc. Et chez saint Paul, le terme souvent la circoncision, il dit c'était un marqueur, parce que dans l'Antiquité, ça comptait dans l'Antiquité, et saint Paul va reprendre même cette expression en disant ceux qui ont reçu cette opération et ceux qui ne l'ont pas reçu. Hein. Et ça posait des problèmes, parce que pour les Juifs qui voulaient s'assimiler aux populations païennes, ils essayaient de faire oublier la marque de leur judaïsme. Hein, ça posait toutes sortes de problèmes, parce qu'ils étaient un peu honteux d'être juifs. Alors d'autres, au contraire, il y avait l'interdiction de pratiquer cette opération, alors par héroïsme, au contraire, les juifs pieux disaient si, on va le faire quand même, et avec des menaces de mort. On a ça dans le livre des Maccabées, hein, ça a été des premières persécutions. Les juifs, et on comprend cet agacement. Alors, je suis en train déjà de partir sur une voie, mais c'est intéressant. On est dans la problématique, le rapport entre les juifs et les nations, c'est un problème qui est très très ancien. Les nations païennes ont eu du mal à admettre qu'il y a un peuple à part, avec ses habitudes, en plus avec ses traditions qui a prêté beaucoup à rire. Hein, quand on voit les auteurs latins, hein, alors vous savez que les latins, à Rome, ils n'avaient pas le même sens de la pudeur que nous, donc on allait au bain, on n'était pas très habillés, et alors il y avait des moqueries sur les juifs, qui évidemment ne souhaitaient pas aller au bain. Mais ça a continué jusqu'au XXe siècle, avec exactement ce même... Au XVIIIe siècle, avec Voltaire, était très axé sur cette question-là. C'est quelqu'un de pas très... Non, mais j'aime pas beaucoup Voltaire, je le dis tout de suite. Voilà. Et alors, son angle d'attaque, c'est de se moquer de cette pratique, des juifs qui, franchement, sont très primitifs, etc. Donc, pour les juifs, c'était un marqueur qui disait, nous admettons d'être... quelque chose qui nous distingue des nations, parce que nous appartenons, nous sommes ce peuple choisi par Dieu. Voilà. Voilà. C'est bon? Très bien. Alors, aujourd'hui, J'ai changé le titre par rapport à ce que je vous avais annoncé au début de, l'année. En réalité, la science d'aujourd'hui n'est pas centrée sur la naissance d'Isaac, mais j'ai pris comme titre « Abraham, l'ami de Dieu ». Et j'espère que ce que nous allons découvrir ensemble permettra de comprendre que c'est véritablement le fil conducteur, que c'est l'enseignement le plus important. Nous lisons donc les chapitres 18 et 19. Je n'étudierai pas le chapitre 21 que j'avais dû annoncer sur le plan initial. Deux chapitres qui sont unifiés, beaucoup plus que les chapitres précédents. Ils constituent une unique histoire en plusieurs étapes et font suite directement au chapitre 17. Il faut avoir bien en mémoire ce qui s'est passé au chapitre 17. Le Seigneur a renouvelé l'alliance avec Abraham, mais à la différence du chapitre 15, où c'était une alliance unilatéral, Dieu établit cette alliance et Abraham est complètement passif, quoi. Il reçoit un don extraordinaire. Là, cette fois-ci, Dieu rend Abraham actif en lui demandant de marcher avec lui et d'observer son alliance, justement, avec le commandement de la circoncision qui marque qu'il y a une participation. Voilà, on est avec cette promesse où Abraham a compris qu'il fallait qu'il y mette de lui-même et vous allez voir que c'est même pas uniquement lui. Voilà. Voilà. Donc, après cette alliance, on peut dire, où enfin le Seigneur arrive une sorte de point d'aboutissement, de point d'équilibre, comme il le voulait, eh bien, Abraham va commencer à voir le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y aura donc deux parties, c'est pas très compliqué, l'hospitalité d'Abraham au chapitre 18, et ensuite le péché de Sodome. Du reste, mon titre n'est pas bien fait parce que c'est pas Genèse 19, mais c'est Genèse 18, verset 17 ou quelque chose comme ça. Bon, mais ça, vous rétablirez sur vos feuilles. Voilà, je suis le texte au plus près. Je vous rappelle que le but de ce cours, je ne vous apprends pas grand-chose, mais surtout de vous donner le goût de la lecture. C'est essentiellement ça, donner le goût de la lecture, de l'approfondissement, et puis d'aller chercher par soi-même. Voilà, alors l'hospitalité d'Abraham. Nous nous intéressons d'abord à la rencontre entre Abraham et ses visiteurs, et ensuite nous regarderons du côté de Sarah. Ce récit de l'hospitalité d'Abraham est sans équivalent dans la Bible. Si on le lit avec un peu d'attention, c'est-à-dire en prenant le temps, eh bien on y trouve un climat de familiarité entre l'homme et Dieu qui est tout à fait inégalé, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et on voit bien à quoi a pu conduire cet itinéraire de foi que Abraham a accepté de suivre. Il s'est pleinement engagé dans cet itinéraire de foi. Il l'a montré à travers son obéissance envers Dieu, mais on voit bien que cette obéissance n'est pas une obéissance passive. Il a fallu qu'il entre dans un combat, qu'il donne de lui-même. Il a surmonté les tentations de peur qui l'avaient conduit à prendre des décisions hasardeuses. Je n'en fais pas la liste ici, mais quand il va en Égypte, il ment au sujet de sa femme Sarah. Et puis on voit que ça recommencera une deuxième fois. Vis-à-vis de Sarah, n'ayant pas d'enfant, il fait une mère porteuse, c'est vraiment ça. Et cette scène un peu pénible, un peu choquante, qui se termine dans les larmes. Donc Abraham, c'est pas un petit saint dès le départ. Il a fallu qu'il apprenne ce que voulait dire d'accueillir la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, Seigneur, je te fais confiance, je reçois ce que tu me dis, mais enfin, j'ai mon idée derrière la tête, ça va, je garde les rênes parce que ça me semble pas très raisonnable. On aura le même phénomène spirituel avec les apôtres quand Jésus dira on va vers Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré. Puis il y a Saint-Pierre derrière qui dit oh, ok, il est bien gentil. Seigneur Jésus, on est là, on s'occupe de tout. C'est là que Jésus dit à Pierre, vous vous souvenez de la remarque de Jésus, c'est derrière moi Satan. Voilà. Or, quand le Seigneur dit à Abraham de marcher avec lui, il s'agit pour Abraham d'accepter que ce soit le Seigneur qui le conduise. Mais c'est jamais facile. Abraham a essayé de prendre les choses en main. Ça marche pas. Quand on est avec le Seigneur, il faut vraiment accepter que ce soit le Seigneur qui conduise. Abraham est véritablement pour Dieu un ami. Le titre n'est pas ce titre n'est pas dans la Genèse. Il est chez le prophète Isaïe. Mais c'est un titre qui est assez fort. Et on ne trouve cette qualification que au sujet de Moïse. Dieu lui parlait comme un homme parle à son ami. il n'y a que Moïse qui a droit, j'allais dire, à un traitement semblable à Abraham. C'est vraiment les deux grandes figures de l'intimité avec Dieu, de la proximité avec Dieu. Le Seigneur lui apparut. Ce sont les mêmes termes qu'au début du chapitre 17. Au chapitre 17, le Seigneur lui apparut. Et puis, c'est le récit que nous avons vu la dernière fois avec le renouvellement de l'Alliance. Cette fois-ci, on est dans un cadre assez différent, un décor assez précis, assez pittoresque, qui nous dit quelque chose, c'est que nous entrons dans le temps de l'accomplissement, de la réalisation. On est, les choses deviennent concrètes. On n'est pas simplement dans un avenir, tu vas marcher avec moi, mais là, on est dans ce cadre où le Seigneur va rencontrer Abraham de façon très très concrète. La rencontre entre Dieu et Abraham a lieu au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Or, le Seigneur qui apparaît à Abraham, en quoi consiste cette apparition? Eh bien, quand il lève les yeux, il n'assiste à aucune théophanie, comme on en a pas mal dans la Bible, mais il voit trois hommes. Il voit trois hommes. Alors, si nous sommes lecteurs habitués de la Bible, nous ne sommes pas tellement étonnés, parce que dans la Bible, Dieu n'apparaît jamais de façon directe. Il est le Dieu invisible, le Dieu transcendant. Et même pour Moïse, il faudra que Moïse jeûne, qu'il demande au peuple de s'éloigner, qu'il se prépare, qu'il monte pieds nus. Pardon ? Et alors, quand il lui demandera « Fais-moi voir ta gloire », il le verra de dos. Enfin, ça, c'est... on aura le temps d'étudier ça l'année prochaine ou une autre année. Mais on voit que la question de voir Dieu, c'est une vraie question théologique. Mais soit le Seigneur apparaît de manière à travers le feu, à travers l'obscurité, c'est à travers ce récit, donc avec une sorte de médiation. Ce sont ces trois personnages un peu étonnants, trois hommes. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'apparaît pas simplement à travers trois hommes, mais il apparaît en brouillant les pistes, en rendant, on pourrait dire, ça y est, le Seigneur apparaît à travers ces trois personnages, ces trois hommes, c'est Dieu. Alors en fait, non, parce que le récit est un peu instable. Il y a trois hommes. Trois hommes, brusquement, on va passer au singulier, on dit « le Seigneur dit », puis après on a de nouveau les hommes, puis après on va se rendre compte que les trois personnages, eh bien il y a deux hommes qui vont se détacher du Seigneur. On dit « tiens, mais c'est vrai que les deux personnages, ce n'était pas le Seigneur », mais ça on n'en savait rien au départ. Puis après on apprend que ces hommes, ce sont des anges, mais on sait aussi que dans la Bible, quand il y a un ange qui apparaît, c'est toujours pour annoncer la présence du Seigneur. Donc on est un peu perdu. Et je ne vous facilite pas la tâche parce que je ne vous donne aucune clé. Voilà, vous allez dire, si on vient ce soir, le 11 décembre, on est le 12, voilà, on est le 12 décembre, ça y est, nous allons enfin y voir plus clair. Parce que tout le monde les connaît, ces trois personnages, vous les connaissez bien, vous les avez vus sur les tableaux de Roublev, qu'on appelle la Trinité, c'est pas la Trinité, c'est l'hospitalité d'Abraham. L'hospitalité Abraham, la Trinité reste invisible. Voilà, et est-ce que nous allons en savoir plus sur ces personnages? Eh bien, la réponse, c'est non. Voilà. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le Seigneur, et que le Seigneur n'apparaît que de façon, pour l'homme, d'une manière, sur un chemin spirituel, qui l'oblige à ne pas saisir, mais à suivre. Voilà, donc il faudra qu'Abraham suive ces personnages pour en savoir plus. Alors l'hospitalité elle-même. Abraham accueille ses hôtes avec simplicité, mais aussi avec un empressement rempli de respect. Et cette simplicité et ce respect, donc simplicité et solennité, cela va permettre au Seigneur de se révéler à lui. C'est même extrêmement touchant quand on regarde de près de voir comment c'est cette charité d'Abraham qui se manifeste avec avec ce zèle. Il y a vraiment un climat familier. Enfin, on voit à quel point Abraham est l'ami de Dieu. Dans l'histoire d'Abraham, l'hospitalité joue un rôle absolument central. De façon générale dans la Bible, c'est une vertu qui est vraiment mise en avant, mais elle joue un rôle particulier en ce qui concerne Abraham. Et elle est opposée à la convoitise qu'on voit apparaître dans d'autres récits. D'ailleurs, il en sera question tout à l'heure. Cette question de l'hospitalité, c'est la question de l'accueil de ce que Dieu donne par opposition à la prise de possession, à l'esprit de possession, à la convoitise. Il y a une évocation, alors je ne m'attarde pas trop dessus, mais une évocation, comme presque partout dans l'histoire d'Abraham, une évocation du jardin d'Éden. La scène de l'hospitalité d'Abraham se déroule sous un arbre, Etz en hébreu, comme le récit de la Genèse, chapitre 3, c'est sous un arbre qu'on connaît bien. On y retrouve les mêmes verbes, les mêmes actions, prendre la nourriture, donner, on se souvient de Ève qui prend et qui donne à Adam, et puis manger, prendre, donner, manger, c'est une séquence qu'on a dans les deux scènes. Mais on voit bien l'opposition entre les deux. Pour Adam et Ève, il s'agissait de prendre une nourriture qui ne leur appartenait pas, parce que le Seigneur leur avait demandé de ne pas manger du fruit d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont pris une nourriture et l'ont mangé, une nourriture qui ne leur appartenait pas. Ils ont été perdus par leur convoitise. Eh bien, Abraham prend ce qu'il possède, il prend de son propre bien et il le donne, mais dans un geste véritablement de don. Il l'offre à ses hôtes. Donc on a un mouvement inverse, qui est l'inverse de la saisie, de la convoitise, mais qui est au contraire celui de la charité, celui de l'hospitalité. On souligne aussi, les auteurs qui commentent ce récit soulignent l'empressement d'Abraham, un empressement peu commun. Il arrive, comme on dit à des visiteurs, on ne sait pas s'ils vont rester longtemps, on leur dit « vous voulez bien manger quelques morceaux de pain ?» Et en réalité, il va à l'étable et il choisit un veau tendre et bon qu'il va leur servir avec des galettes, du caillé et du lait. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'accueillir quelqu'un comme ça en disant « installez-vous » et vous allez à l'étable. À chaque fois, je me suis essayé de me figurer la chose. Vous imaginez, il faut déjà attraper le petit veau, ensuite il faut l'égorger. Ensuite, il y a tout un travail. Voilà. Ceux qui vivent ou qui ont vécu à la campagne imaginent ce que ça peut être. Mais il faut dire aussi peut-être qu'on n'avait pas les mêmes contraintes de temps qu'aujourd'hui. Trois visiteurs. Voilà. Désolé, j'ai un rendez-vous. Passer le temps sur le téléphone. Voilà. Mais ça dit quelque chose, vous voyez, ce décalage entre ce que Abraham a promis et ce qu'il fait. Il y a une sorte de débordement qui est celui de l'hospitalité. Ces dispositions que l'on trouve chez Abraham, nous les avions eues déjà au moment du partage de la terre avec Lot. Vous vous souvenez, quand Abraham était arrivé dans le pays, il était avec son neveu, avec lequel il s'entendait bien, il n'y avait pas de dispute, mais il se rendait compte que ça devenait un petit peu tendu pour les bergers, qu'il fallait s'éloigner les uns des autres. Et Lot, le premier, s'était servi en prenant la terre la meilleure. Abraham, lui, a accueilli ce que Dieu voulait lui donner. Nous avions vu ça. Lot avait pris, Abraham avait reçu. Et ça va être un élément qui va prendre une certaine importance dans la suite du récit. Je ne parle pas maintenant de la question de la convoitise, le fait de prendre pour soi. Je parle de l'hospitalité. L'hospitalité conduit à la vie. Voilà. Le refus d'hospitalité à la destruction et à la mort. Alors, au-delà de cette question de l'hospitalité, du lien avec la vie, c'est-à-dire l'accueil d'un don conduit à recevoir et à pouvoir donner soi-même, il y a une autre signification du repas qui est soulignée par l'exégète André Wénin, un excellent exégète belge, dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois, une thématique qui est connue dans la Bible. Un repas, plutôt les conclusions d'alliance se terminent souvent par des repas. Le sujet, je pense qu'il n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Quand on fait un contrat entre deux entreprises, c'est rare que ça ne se termine pas autour d'une table. Voilà, peut-être davantage en France, mais sûrement aussi dans d'autres pays. Voilà, c'est toujours autour d'une bonne table qu'on est content, ça s'est bien passé, les négociations étaient fructueuses et on va servir un bon vin. Ça, c'est une thématique biblique importante. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 17? Il y a eu la conclusion d'alliance. Et bien là, nous avons le repas. Et ça veut dire que Abraham, ayant bien compris ce que Dieu lui avait demandé au chapitre 17, eh bien, on reconnaît le Seigneur à travers ce repas. Donc c'est l'alliance, on arrive à sa parfaite conclusion. Alors maintenant, au moment où les visiteurs vont partir, nous allons nous intéresser à un personnage dont on a peu parlé jusqu'à présent. On en a parlé au chapitre 16, mais en des termes qui n'étaient pas très positifs. Eh bien, nous allons parler de Sarah, puisqu'elle est concernée par tout ce qui se passe depuis déjà un moment, le renouveau de l'Alliance et l'échange entre Abraham et ses hôtes. Une fois que les devoirs de l'hospitalité ont été honorés, Abraham est pleinement disponible pour entendre l'annonce que ses visiteurs voulaient lui faire. L'an prochain, ta femme aura un fils. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que le Seigneur annonce qu'Abraham aurait une famille. Ça a été tout le problème qui était posé au chapitre 16. Abraham s'impatientait un peu, c'est depuis le début. Mais là, on va voir le début de la réalisation de la promesse d'une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus concrète. Promesse qui a été faite dès l'appel d'Abraham au début du chapitre 12, donc qui fait partie de la vocation d'Abraham. Promesse qui avait été renouvelée quand il s'était installé en Canaan. On se souvient que comme la promesse ne se réalisait pas et qu'il s'inquiétait, eh bien, il avait interrogé le Seigneur. Vous vous souvenez de cette scène magnifique où le Seigneur lui dit « Sors de ta tente et regarde les étoiles, eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse. Donc, je confirme bien que tu auras une descendance. » Mais Abraham n'avait pas compris, comme je le disais tout à l'heure. Il était persuadé que c'était à lui de prendre les choses en main. Et là, pour le coup, c'est Sarah qui a pris les choses en main. Et on sait que c'était un épisode malheureux. Bien sûr, Ismaël est né et lui aussi doit être le père d'une nombreuse progéniture, mais ce n'était pas ça que le Seigneur avait prévu. En réalité, ce que Abraham a du mal à comprendre, et Sarah aussi ne l'avait pas compris, c'est que la promesse concernait Sarah. On est vraiment dans un contexte d'alliance. Dans une alliance bilatérale, chaque partenaire compte. Le Seigneur et Abraham, on l'a vu, chapitre 15, c'est le Seigneur qui a fait l'essentiel, le chapitre 17, il dit maintenant, à toi de jouer. Mais ça vaut aussi pour l'alliance entre Abraham et Sarah. Et en réalité, le Seigneur sous-entend depuis le début que c'est bien Abraham et Sarah qui auront l'enfant, mais petit à petit, on le voit déjà au chapitre 17, il commence à dire, attention, c'est bien avec Sarah que tu auras ton enfant, c'est-à-dire l'alliance entre vous va être fructueuse. Je fais une petite parenthèse, j'en ai pas fait depuis longtemps, il y aurait beaucoup à dire sur l'enseignement de la Bible, sur le couple, sur le mariage, sur la place de la femme, qui était assez inédit par rapport aux cultures environnantes, où il y aura vraiment cette idée de la réciprocité, et qui culmine chez saint Paul, contrairement à ce qu'on raconte souvent, je vous fais ouvrir votre Bible et je vous le montre tout de suite, mais ce n'est pas l'objet, mais le Seigneur fait prendre conscience au patriarche, dans une culture patriarcale, où c'est l'homme qui conduit un petit peu tout, lui fait prendre conscience que les choses ne se feront pas sans son épouse. Ta femme Sarah te donnera un fils. Voilà. C'est ce qui a été dit au chapitre 17, verset 19. Et là, c'est ce que disent les trois visiteurs. L'an prochain, ta femme aura un fils. C'est Sarah qui aura un fils. Si tu n'avais pas compris, ce n'est pas simplement toi, pas simplement vous deux, c'est Sarah. Ce qui est intéressant, c'est que Abraham, il lui faut du temps pour arriver à le comprendre. On voit dans le récit qu'il n'en a rien dit à Sarah. Alors que le Seigneur, au chapitre du 7, il avait dit, c'est bien Sarah qui aura un fils. Il aurait pu revenir en disant, Sarah, j'ai un truc à te dire. En fait, ce n'est pas du tout avec Agar, ça te concerne. En fait, tu vois, le coup de Agar, ce n'était pas ça. Tu es concerné. Or, Abraham n'a rien dit à sa femme. C'est dommage. Quelquefois, je demande des choses je peux vous dire que les temps ont changé. Je demande des choses à des messieurs à la paroisse et j'ai souvent la réponse, Attendez, mon père, il faut que je demande. Oui, je connais la suite. Voilà. Hein, et quelquefois, je connais la réponse. À l'avant. Parce que je sais ce que pense madame. Je vous avais déjà raconté l'histoire authentique d'un couple de la paroisse. Je vois passer le garçon qui était assez actif et tout. Et puis, il y avait la marche Saint-Joseph, qui est la marche des pères de famille, la marche des hommes. Maintenant, c'est pas que les pères de famille, tous les hommes. Et je lui pose la question. Je lui dis, alors, est-ce que tu fais la marche Saint-Joseph ? Un peu hésitant, il dit, il se trouve que sa femme passe à ce moment-là. Oui, il l'a fait. Voilà, normal. C'est ça. Donc voilà, c'est Abraham, Sarah quelques siècles après. Donc voilà, c'est le contraire. Hein, si on écrivait la Genèse aujourd'hui, ce serait, Sarah, n'oublie pas de dire à Abraham qu'il est concerné. Pardon, le but, c'est pas de réécrire là. Voilà. Je me perds. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien une thématique qui est biblique, hein, cette idée de l'alliance. Et l'alliance suppose qu'il y ait une réciprocité, que les deux soient parties prenantes. Hein, que les deux soient parties prenantes. Hein. Et du reste, la figure de Sarah a déjà été mise en avant par Dieu lui-même. Hein, vous avez raconté l'histoire du changement de nom. Hein, Sarai, mes princes, donc celle qui appartient à la tribu d'Abraham, et désormais elle s'appelle Sarah, ça veut dire princesse. Elle est elle-même, et bien qui elle doit être reconnue comme telle. Voilà, donc avant de partir, les visiteurs réitèrent la promesse d'une descendance. Sarah est encore absente, on discute entre hommes, voilà. Mais elle n'est pas éloignée, elle est séparée simplement par l'épaisseur d'une toile de tente. On imagine tellement la scène. On imagine tellement la scène. Voilà. Juste derrière, puis elle écoute. Voilà. Le récit est très, très concret. Très, 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 c'est très touchant pour ça. Et tous les détails sont importants. Elle est près de la toile de tente. On se souvient que Abraham était sous la tente quand il s'interrogeait sur sa descendance. Le Seigneur lui avait demandé de sortir de sa tente. Cette fois-ci, c'est Sarah qui est sous la tente. Les éléments narratifs, ce qu'on appelle les éléments narratifs, il y a une narration, et les éléments comptent, ce n'est pas uniquement un cadre pittoresque. Donc la question de l'attente, qui est très importante dans l'histoire d'Abraham. Abraham est un nomade, un migrant, et ce sera repris dans l'épître aux Hébreux, parce qu'il attend la cité céleste. La toile de tente a vraiment de la signification. On la retrouvera à propos de l'incarnation, d'ailleurs, à Jésus. Il a planté sa tente parmi nous. Voilà. Donc la tente est un motif important. Abraham écoute, et elle entend les hommes dire à Abraham, cette fois-ci, c'est pas comme l'alliance au chapitre 17 où elle n'était pas là, ta femme Sarah aura un fils, cette fois-ci elle est présente, elle entend, ta femme Sarah aura un fils. Alors là, elle rit. Elle rit. On se souvient qu'Abraham, au chapitre 17, avait ri quand il avait entendu cette alliance. Il avait ri dans sa barbe, en disant, à l'âge que j'ai, et puis à l'âge de ma femme. Pour elle aussi, cette promesse est trop inouïe, trop grande, mais Dieu confirme bien l'annonce. Il se rend bien compte qu'il dit quelque chose que Abraham a eu du mal à croire, et actuellement Sarah a du mal à le croire. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? C'est extraordinaire. J'enfonce le clou, j'insiste, y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? Vous voyez, quand je vous disais le lien entre Abraham et Marie, l'annonce qui sera faite à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Dieu réalise ce qu'il a promis. Il a dit dès le départ, Abraham a eu du mal à l'accepter. Et petit à petit, il a fallu qu'il y ait cette éducation d'Abraham pour qu'il finisse par comprendre. Maintenant, il semble qu'il ait à peu près compris. Dieu est fidèle et il manifeste sa fidélité en me donnant la fécondité là où à vue humaine, le seul horizon était la stérilité. C'est le premier fruit de la réalisation de l'alliance. L'alliance avec Abraham, c'était à la fois en vue d'une descendance et puis en vue de la bénédiction pour les nations. Eh bien, le premier fruit de l'alliance, c'est que Sarah aura véritablement un fils. Et cette fois-ci, on est dans le concret, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le concret. L'an prochain, ta femme aura un fils. Cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de symbolique ou de métaphorique. Ça devient concret. Alors, il y a ce dialogue qui termine le récit de l'hospitalité d'Abraham. Il y a ce dialogue entre Abraham et Sarah. Elle rit, mais au moment où son mari arrive, donc les invités sont partis. Vous connaissez tout ça, quand vous avez des invités chez vous, les choses se passent bien, on est très poli, puis après on se retrouve, soit à deux, soit en famille, et on fait les commentaires, c'est très intéressant. Au séminaire, on avait un gars qui est prêtre maintenant, je dirais Faki, alors il se tenait, il était très, un peu comme ça, il disait pas un mot, il était très, un peu timide, etc. Et dès que la personne qu'on avait invité claquait la porte, alors il l'imitait. Et on avait l'impression de l'avoir sous les yeux. Alors, quelquefois, dans l'escalier, il nous entendait déjà éclater de rire, il ne comprenait pas pourquoi. Voilà. Donc, je ne dirais pas qui y est passé. Ce qui se passe quand une personne part, ça peut être très drôle. Mais ne faites pas ça, écoutez comme ça. Voilà. Si les trois visiteurs avaient écouté le dialogue entre Abraham et Sarah. Voilà. Sarah dément. « Je n'ai pas ri, » dit-elle, « car elle avait peur. » Mais il répliqua, « Si, tu as ri. » C'est extraordinaire. Voilà. Je n'ai pas ri. Mais l'auteur biblique dit, « Car elle avait peur. » Je vais revenir dessus. Mais il répliqua, « Si, tu as ri. » C'est la remarque d'Abraham, c'est magnifique. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce mensonge de Sarah? Il faut reconnaître que ben, ça nous fait rire. « Je n'ai pas ri. Si, tu as ri. » Voilà, quel est l'enjeu? Et c'est sûr que Sarah n'avait pas à avoir honte de sa réaction. Abraham aussi avait ri. Elle est un peu comme une petite fille prise à défaut et qui tente en vain de se défendre. Et bien je pense que ce rire, il est extrêmement touchant, extrêmement profond. Il dit quelque chose de l'expérience de Dieu. Profondément, il dit quelque chose de l'expérience de Dieu et de l'expérience de Dieu dans une humanité qui connaît ses propres limites, qui connaît ses propres fragilités. Sarah nous montre la fragilité de la condition de l'homme face au mystère de la vie, parce que c'est de vie qu'il est question. Et on sait bien, parmi vous, ceux qui sont mariés, on sait combien la vie est un don inouï, devant lequel on sent à la fois notre propre fragilité, puis en même temps la grandeur de quelque chose qui nous échappe, sur quoi qu'on ne maîtrise pas complètement. Et pour elle, eh bien, c'était une stérilité qui était si longue. D'une certaine manière, enfin, je pense que ce rire doit cacher bien des larmes, une souffrance. Et donc, il y a un émerveillement devant le mystère de la vie. Le Seigneur accomplit ce qu'il a promis à Abraham et Sarah. Et ils en sont les témoins et c'est si difficile à croire. Et pourtant, eh bien, il faut l'accueillir. Je reprends ce que dit, je pense que c'est André Wénin. Elle a peur que son rire, elle veut cacher son rire, parce qu'elle a peur que son rire ne gâche l'espoir en train de naître. Devant une nouvelle pareille, peut-être qu'elle se dit, il aurait mieux valu que je me taise, que je reste, que j'attende de voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette annonce de la naissance d'un fils a été faite et que la malédiction qui pèse sur Ève, qui concerne la maternité, cette malédiction est vaincue. Il y a une victoire. Quelque chose de très beau qui est en train de se passer, dont Sarah est le premier témoin et même l'acteur. Le rire de Sarah n'exprime pas l'incrédulité, pas plus que pour Abraham, mais plutôt le passage de la tristesse à la joie. Il y a certains commentateurs qui vont parler de la difficulté de croire d'Abraham et Sarah, ils acceptent quand même de croire. Je pense qu'ils acceptent de croire. Et il y a véritablement, au-delà de ce côté un petit peu, cette petite provocation et ce questionnement de Sarah et d'Abraham, il y a bien finalement l'accueil d'une joie. Le rire de Sarah, c'est un rire de joie. Et de fait, l'année suivante, elle enfante Isaac au temps que Dieu avait marqué. Donc le rédacteur biblique souligne bien que c'est le Seigneur qui a donné cette fécondité. C'est bien le temps qu'il avait annoncé. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac, ce qui veut dire « il rit ». Et Sarah dit, le Seigneur m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. Vous voyez comment le destin de l'humanité s'est joué à l'ombre d'une tente, près d'un arbre, à travers la vie d'un couple qui était bien bousculé jusque-là, hein, et qui doit cheminer intérieurement. Mais quel progrès immense! Parce qu'il s'agit, comme je vous l'ai dit depuis le début, pour Dieu d'entrer dans l'histoire de l'humanité. Il faut que l'humanité accueille la présence du Seigneur. Et ce n'est pas facile. Hein. Se laisser conduire, se laisser dépouiller des assurances qu'on a pour permettre au Seigneur de conduire. Hein. Je t'ai dit que tu auras un fils, eh bien ce fils tu l'auras. Le deuxième volet de notre... ça va, il n'y a pas de grosses questions, enfin on verra à la fin. Hein. Le deuxième volet de ce récit nous transporte, alors nous fait quitter le chêne de Mambré et va nous transporter dans une ville un peu plus éloignée, hein, la ville de Sodome. Hein. On se souvient de la promesse faite à Abraham, je l'ai évoquée tout à l'heure, elle est double. Hein. Il y a la promesse d'une descendance, hein, qui en elle-même sera une bénédiction, et le deuxième volet, c'est la communication de la bénédiction pour les nations de la terre. Hein. Là, au début du chapitre 18, nous avons vu comment Abraham et Sarah ont consenti au projet de Dieu, eh bien, Dieu peut les conduire plus loin. C'est hier ou avant-hier à Sainte-Anne, je crois que c'est pour avec tout groupe d'évangélisation, c'est ça, on se disait, mais c'est tellement douloureux de voir cette souffrance dans le monde, et pourquoi, une bonne fois pour toutes, Dieu n'arrête-t-il pas tout? Enfin, je veux dire, il arrête la souffrance, mais précisément parce que le Seigneur veut que l'homme soit dans le coup, et qu'il faut du temps, et qu'il faut une éducation du cœur de l'homme. C'est ce que nous voyons avec Abraham. Ça, c'est une mauvaise solution théologique d'imaginer que bon Dieu, comme par un coup de baguette magique, supprime le mal. C'est-à-dire que l'homme reste en dehors et que sa liberté n'est pas engagée. Abraham et Sarah apprennent petit à petit à se laisser conquérir par cette promesse de Dieu, par cette grâce. Et une fois que leur cœur est adapté à ce que Dieu veut pour eux, alors oui, il y a vraiment quelque chose qui change. Et que le mal pourra être vaincu. Mais c'est Abraham qui nous ouvre la voie. Donc là, le Seigneur voit en Abraham et en Sarah, hein, ces croyants par excellence, qui lui permettent d'avancer cette histoire de salut. Donc, promesse, le deuxième volet de la promesse, c'est « Par lui se béniront toutes les nations de la terre ». Hein. Nous avons vu comment, depuis le début de l'histoire d'Abraham jusque-là, le récit était centré sur une famille. Vous vous souvenez, je vous avais raconté ça pour ceux qui étaient là l'an passé, le faisceau était assez large, hein, il était question de toute l'humanité avec Noé, puis ça s'était concentré sur la famille de Noé, les Sémites, hein, la descendance de Sem, hein, puis parmi les descendants de Sem, on était arrivé à la famille de Terah, hein, et finalement la famille d'Abraham. Donc une espèce de resserrement, un goulot, hein, le goulot pour que tout redémarre, c'est Abraham. Voilà. À partir d'Abraham, de nouveau, ça va s'élargir. Et ça va s'élargir avec cette grande question de la bénédiction apportée aux nations. Nous sommes transportés à Sodome, une ville dont il a déjà été question quand il y a eu le partage du pays, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Abraham et Lot. Lot a voulu la terre la meilleure, et Sodome faisait partie de cette terre la meilleure. Lot avait pris... Abraham avait reçu. Alors, première partie de cet épisode, c'est l'intercession d'Abraham. Le lecteur est informé, d'ailleurs avant Abraham, c'est ce qu'on appelle dans la lecture narrative, hein, la méthode narrative de lecture de la Bible, hein, il y a des choses que le lecteur sait et que le personnage ne sait pas. Puis il y a d'autres choses que le personnage de la Bible sait et que le lecteur ne sait pas. C'est très intéressant. Posez-vous la question, à des moments, vous dites, tiens, Abraham en sait plus que moi, et d'autres fois, vous en savez plus que lui. Là, vous êtes du côté de Dieu, vous en savez plus qu'Abraham. Le Seigneur veut lui révéler son dessein. Ça veut dire que ce qui va se passer, en réalité, c'est le Seigneur qui a une idée derrière la tête. Et son idée, c'est quoi? C'est d'associer Abraham à son dessein d'offrir la bénédiction à toutes les nations de la terre. Ce n'est pas Dieu qui va tout faire tout seul. Il veut que Abraham soit partie prenante. Qu'il soit partie prenante dans l'alliance, qu'il soit partie prenante pour la naissance d'un enfant, eh bien, il sera partie prenante pour offrir la bénédiction à toutes les nations de la terre, hein, dans la justice et le droit. Le Seigneur va donc entraîner Abraham dans un dialogue où, justement, Abraham pourra montrer sa justice, puisqu'il s'agit que cette bénédiction se fasse dans la justice et le droit. Donc, c'est la question de la justice. Hein, pour que la bénédiction de Dieu passe dans la justice auprès des nations, il faudra que Abraham lui-même marche dans la justice. Hein, le Seigneur avait demandé à Abraham de marcher avec lui. Et donc, le Seigneur met Abraham dans le coup en lui disant son projet de visiter Sodome et Gomorre parce que leur péché est bien grave. Hein, donc, une espèce de provocation. On va aller voir Sodome et Gomorre. Or, ce sont des villes pécheresses. Donc, comment Abraham va-t-il réagir? Hein, on se souvient que quand Lot s'était établi à Sodome, quand il y a eu ce partage des terres que je viens d'évoquer, il était déjà annoncé que les gens de Sodome étaient de grands scélérats et des pécheurs contre le Seigneur. Donc, dès le début, le ver était dans le fruit. Lot a choisi le beau fruit, mais il y avait déjà ce ver du péché. Et ce ver, ben, il a continué de dévorer le fruit. Et nous allons le voir. Alors, comment Abraham va-t-il pouvoir mettre en œuvre sa mission de communiquer la bénédiction alors que Sodome n'est pas en mesure de la recevoir? Sodome est une ville pécheresse. C'est facile de dire « tu seras une bénédiction pour toutes les nations », mais si les nations elles-mêmes sont incapables de recevoir cette bénédiction. Alors Abraham va s'engager dans ce dialogue. Vous le connaissez bien, ça fait partie des pages les plus connues de la Bible. On s'est toujours posé la question, mais est-ce qu'Abraham marchande, comme un marchand de tapis à Alep, vous savez, comme ça, 500 chez... Alors, c'est pas des shekels là-bas, c'est des dinars, je sais pas quoi. 500 dinars, 80, bon alors 400, 120, pas plus que 120, pas moins que 300, etc. C'est souvent comme ça qu'on le lit. Je pense qu'il y a une lecture plus fine que nous donne la Bible. On voit Abraham avancer avec prudence. Il part du plus évident, 50 justes, ça représente une certaine masse, mais aussi avec audace. Il va pousser la négociation jusqu'à 10 justes. Donc on voit qu'il a une vraie attention, il veut obtenir un résultat. On peut résumer son attitude à travers l'humilité et la hardiesse, qui traduisent ce climat de confiance que nous avons eu au chapitre 18, au début du chapitre 18. L'hospitalité d'Abraham nous montrait comment il y avait une sorte de complicité que le Seigneur a réussi à établir avec Abraham. Eh bien, c'est ça qui permet qu'il y ait la négociation. Nous voyons ce que ça donne quand on a cette proximité avec Dieu, on peut entrer dans ce dialogue. Humilité et hardiesse. Alors, quel est le raisonnement d'Abraham? Abraham n'ignore pas que le péché appelle la punition. Il est juste. Un mal doit être reconnu et puni. D'autre part, Abraham distingue bien le juste du pécheur. Et il admet que les uns et les autres ne puissent être traités pareillement. Jusque-là, on est d'accord. On est dans la justice. Mais il va tourner habilement l'argument de la justice. Si Dieu, comme il le dit, et il parle bien, il s'adresse à Dieu, donc il va essayer de le prendre par les bons sentiments, Dieu est le juge de toute la terre, et il rendra justice. Alors si Dieu est juste, eh bien, il ne peut condamner les justes à cause des coupables. Il ne peut pas condamner les justes à cause des coupables. Il serait plus injuste de condamner les coupables, de condamner les justes, par exemple, pardon, que d'épargner les coupables. Il vaut mieux épargner les coupables pour ne pas condamner les justes que de faire l'inverse. Il plaide donc qu'il vaut mieux sauver la ville en épargnant des pécheurs plutôt que de la détruire en perdant les justes. Et on le voit intercéder non pas simplement en faveur des justes de Sodome, mais en faveur de tous les habitants. Et Dieu lui donne raison. Et Dieu lui donne raison. Même s'il n'y a que 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Ouais. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que en réalité, quand on lit le texte rapidement, on se dit, mais ça veut dire que Dieu avait quand même des intentions qui étaient un peu rudes, et c'est Abraham qui essaye de sauver les humains vis-à-vis d'un Dieu tout-puissant. On a bien vu au début, c'était clairement dit, que le Seigneur voulait faire rentrer Abraham dans ses desseins. C'est pourquoi il lui a juste dit, tu es devant une ville pécheresse, qu'est-ce que tu fais? À toi de jouer. C'est un peu comme un défi, comme un jeu. Qu'est-ce que tu fais? Et bien Abraham intercède. Et pour lui, la justice, il n'ignore pas la justice, ça c'est très important, mais la justice peut être peut basculer du côté de la miséricorde. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Alors, est-ce que c'est Abraham qui a fait changer le Seigneur? Ben, nous avons compris que c'est le contraire. C'est plutôt le Seigneur qui l'a transformé. C'est le Seigneur qui a suscité cet étonnant dialogue. C'est le Seigneur qui a obtenu ce qu'il voulait, mais Abraham a été l'instrument actif de ce projet de Dieu. Il n'en a pas été uniquement l'instrument passif. C'est le projet salutaire où Abraham trouvera toute sa place. Et là, on a comme une avenue qui s'ouvre, où Abraham et tout le peuple d'Israël pourra s'engager, qui va devenir comme la matrice, enfin, ce chemin où va se jouer le salut de l'humanité. Cette justice qui fait la part belle à la miséricorde, pour que, pour l'homme, il y ait toujours la possibilité d'une conversion. Et nous allons terminer avec la deuxième partie de cette scène de Sodome, mais ce n'est plus le point de vue de Dieu, ça va être le point de vue des hommes. Et là, on entre dans le péché, la réalité du péché de Sodome. Il n'est plus question de Dieu, mais des deux hommes. Il n'est plus question d'Abraham, mais de son neveu Lot. On se souvient de la fluidité des personnages de la narration. À travers ces deux hommes, qui d'ailleurs apparaissent comme deux anges aussi, c'est bien le Seigneur qui est présent. Et on n'est plus en vue plongeante sur Sodome, mais on entre dans la ville. Le Seigneur vient voir si les habitants ont fait le mal, dont la clameur est montée jusqu'à lui, pour reprendre cette expression qui rappelle d'ailleurs l'histoire de Noé, le péché qui couvrait toute la terre. Le premier mouvement de Lot, quand il voit arriver les visiteurs, rappelle celui d'Abraham. Il exerce l'hospitalité, bien que de façon plus modeste. Si vous regardez le récit de façon attentive, Abraham avait dit « Vous prendrez bien trois petits morceaux de pain. » Il était venu avec un agneau, des yaourts, du fromage, je ne sais pas quoi, de toutes sortes de bonnes choses. Là, Lot donne juste ce qu'il faut pour manger. Donc on voit bien, on n'est pas, vous savez, dans la Bible, il faut se défaire de l'idée des les gentils, les méchants, les bons, les mauvais. Quand je pose la question à propos du livre de l'Exode, quand on voit l'histoire d'Israël qui est libéré d'Égypte, ils sont où les gentils? Les gentils, c'est Israël. Alors on regarde ce que raconte Israël, puis on se rend compte, ben non, ils sont peut-être pas si gentils que ça. Voilà. Et puis les Égyptiens, c'est les méchants. N'empêche que le Seigneur dit, eux sauront que je suis le Seigneur, alors qu'Israël l'a toujours pas compris. Donc les gentils, les méchants, c'est pas facile. Faut pas faire de distinction. Abraham et Lot, Lot c'est un bon, mais c'est un bon qui est quand même un peu gagné par qui a été gagné par la convoitise, et il est bien de la ville de Sodome. Mais il n'empêche qu'il exerce l'hospitalité. Et il exerce l'hospitalité et il va se sentir assez seul quand les habitants de Sodome vont vouloir abuser des visiteurs. Alors là, on voit sortir les instincts bestiaux des habitants de Sodome. Il tente de s'emparer des visiteurs. Alors, ce qui est intéressant dans la Bible, ça vous le savez bien parce que vous êtes des lecteurs de la Bible, c'est que la Bible ne donne pas du tout de vision idéalisée de l'homme, elle donne une vision de l'homme tel qu'il est, et tellement de façon réaliste que chacun peut dire ça va, j'ai trouvé pareil, voilà, puis même pire, donc ça me permet de m'y insérer sans problème. La culpabilité des habitants de Sodome est double. C'est l'absence d'hospitalité, qui est beaucoup plus grave que pour nous dans notre culture, dans la Bible, et ça on le voit dans tous les récits bibliques, la question de l'hospitalité est extrêmement grave, mais bien sûr aussi les pratiques contre nature que la Bible condamne avec la plus grande véhémence. Tous sont concernés par cette culpabilité, tout le peuple sans exception. Voilà. Donc, pas la peine de s'attarder sur ce triste tableau. Lot fait tout ce qu'il peut pour protéger les deux visiteurs. Hein. Et alors, une scène qui est assez pénible, où on voit les habitants de Sodome qui veulent faire des choses pas belles avec les deux bons hommes. Enfin, c'est-à-dire, c'est voilà. Eh bien, qu'est-ce que propose Lot ? Il propose de mettre les deux filles à la place. Voilà, c'est répugnant, c'est choquant. Voilà. Alors, c'est vrai aussi, ça les commentateurs le disent, que dans le monde biblique, le devoir d'hospitalité avait plus de prix que tout. À tel point que un père préférait livrer ses filles hein, que de voir des étrangers bousculer comme cela risque de se passer. Hein. Il n'empêche que on voit dans quelle misère hein, morale l'humanité se trouve. Hein. Lot échoue, évidemment, devant des hommes qui sont livrés à leurs instincts bestiaux, et les deux hommes reprennent un peu la main, si on peut dire, c'est-à-dire en fait le Seigneur, hein, il frappe les habitants de Sodome de Berlu, ils deviennent aveugles, ils n'arrivent plus à trouver la porte, et Lot referme la porte avec les deux visiteurs et sa famille. Hein. La ville sera finalement détruite, hein, c'est de nouveau va se poser la question du salut. Une promesse de salut avait été faite hein, pour 10 justes, on se souvient, hein, qui résideraient dans Sodome, mais là, il y a moins de 10 justes. Vous me direz, c'est un peu mesquin. Hein. Il s'est arrêté à 10 justes, dommage, il y a moins de 10, donc Sodome est détruite. Hein. Je pense aussi, alors ça, je regrette de ne pas l'avoir mis dans la feuille, mais je pense aussi que la négociation entre Abraham et le Seigneur nous met du point de vue de Dieu, c'est-à-dire le projet de la miséricorde, là, nous sommes du point de vue purement humain et on voit ce qu'est le péché et le péché conduit à la destruction. Voilà. Lot, averti par les deux hommes, échappe à la destruction avec sa femme et deux filles. Et ces deux filles. Hein. Alors, c'est intéressant de voir, là aussi, c'est une thématique qui court depuis le début de l'histoire d'Abraham. C'est par la parole des anges que la famille de l'homme de Lot va être sauvé. Hein, ceux qui écoutent la parole et qui obéissent trouvent la vie. Hein, c'est un thème très biblique. Hein. Ceux qui refusent de l'écouter, hein, qui restent enfermés en eux-mêmes, qui n'ont pas, j'allais dire, qui sont, pardon pour les écouteurs que vous utiliserez en sortant d'ici, mais on aimait les écouteurs, on ne sait plus trop écouter. Hein, ça, c'est la question de l'écoute, c'est une vraie question. Hein, eux, ils ont leurs écouteurs ou ils n'écoutent qu'eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte du risque qu'ils prennent et ils vont mourir sur place. On voit dans ce récit, évidemment, de façon extrêmement forte, l'opposition entre la convoitise, hein, qui était déjà une marque de fabrique hein, de la famille de Théra. Vous vous souvenez, je vous avais raconté, famille de Théra, tout est centré hein, sur le père qui ne lâche rien pour ses enfants. Hein, tout est centré autour de lui. Et Abraham a réussi à sortir de ce cercle de cette fermeture, hein, en répondant à l'appel du Seigneur. Hein, la question de la paternité qui doit accepter de se perdre, de donner, hein, au lieu de garder pour elle-même. Hein. Eh bien, cette question était là, et on voit que Lot n'est pas complètement sorti de cette mentalité. Hein. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui permet de sortir de cet esprit de convoitise. Hein. La parole de Dieu avait demandé à Abraham de quitter ce qu'il possédait. C'était vraiment c'est la grande thématique d'Abraham. Abraham, c'est celui qui quitte la maîtrise de lui-même, la possession. Hein, quitte ton pays, ta parenté, ce que tu possèdes. Hein, il accepte de partir pour une aventure, hein, une aventure spirituelle. Hein, apprendre à se quitter soi-même. Hein, l'air le rat, va vers toi, tu te trouveras en te quittant toi-même. Hein. Eh bien, Lot, lui, n'a pas réussi à se quitter lui-même, parce qu'il a voulu posséder, il a voulu prendre la plus belle terre, il a voulu prendre la ville de Sodome. Et voilà le résultat de la convoitise. Hein. Et la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a du mal à quitter la ville, elle se retourne en arrière, et elle devient une statue de sel. Et si vous voulez voir la statue de sel, eh bien venez en Terre Sainte l'été prochain. En Terre Sainte, on voit la statue de la femme de Lot. On voit une espèce de grosse colonne comme ça, avec une tête en haut, c'est assez impressionnant. Alors elle devait être très grande et très costaud. Elle devait faire 20 mètres de haut, à peu près. Et on voit la statue de sel, c'est la figure de la stérilité et de la mort. L'histoire de Lot se termine lamentablement dans une double impasse. Vous voyez que les éléments narratifs ont tous de l'importance. Il est au fond d'une grotte avec ses filles. Il est au fond d'une grotte alors qu'Abraham se voit promettre une terre immense. Et puis, son histoire se termine par un double inceste. Là où Abraham, qui a traversé ses épreuves, s'apprête à voir la naissance de son fils. Voilà. Je conclue très rapidement. Par sa foi, Abraham a ouvert un chemin de bénédiction. C'est vraiment ça. Le chemin ouvert par Abraham, c'est un chemin de bénédiction. Le Seigneur veut donner une bénédiction quand il appelle Abraham. Et ce chemin, Israël et toutes les nations seront appelées à l'emprunter. Et on voit que cette foi d'Abraham, qui ouvre ce chemin, ce n'est pas une soumission aveugle. La foi, ce n'est pas la soumission aveugle. Ce n'est pas non plus la vision. Pas m'arrêter dessus. C'est pas non plus une conviction purement intellectuelle. Quand on fait de la foi, juste une conviction abstraite, intellectuelle. La foi, c'est une obéissance de toute la personne. Et c'est par-dessus tout une amitié avec Dieu. Une amitié qui ouvre à la vie et au salut. Abraham est vraiment l'ami de Dieu. Il est le croyant, c'est-à-dire qu'il a accepté de rentrer dans cette alliance, et cette alliance met en jeu l'amour. Cette intimité, cette proximité qui permet à Dieu d'agir à travers Abraham, et aussi d'Abraham d'être partie prenante de façon très active. Voilà. Je pense qu'il est trop tard, ou est-ce qu'il y a une question ou deux ? Il y a Stéphanie qui dira s'il faut qu'on... Ça va ? Une question ? Ou pas. Ça va. Donc ce sera pour la prochaine séance. Alors la prochaine séance, ça va être le récit beaucoup plus difficile et mystérieux du sacrifice d'Isaac. Je pense que ça vous dit à tous quelque chose. Voilà. Donc, lisez-le, relisez-le, n'hésitez pas même à venir avec vos propres questions la prochaine fois, pas simplement sur ce que nous venons de voir là, mais sur le texte lui-même. La meilleure manière d'entrer dans un texte, même avant de suivre une formation sur ce texte, c'est de l'avoir travaillé.